doctorante en littérature et militante antiraciste. Elle vient nous jaser de la sortie de son livre « Le hijab, leur obsession et nous ». Bonjour Lisa Amor, ça va bien?
Oui, bonjour, ça va, merci et toi?
Ça va très bien, merci d'être là ce matin. Dans là, ton essai « Le hijab, leur obsession et nous », vous partez là, du constat là, d'une montée de l'islamophobie dans les débats publics. Comment vous analysez là, concrètement cette évolution-là et les formes là, qu'elle prend aujourd'hui, notamment là, au Québec et en France?
Oui, alors effectivement, en fait, dans mon livre, j'essaie de revenir sur la manière dont... historiquement, en fait, l'islamophobie s'est constituée comme un sujet central, en fait, dans le débat public, à la fois en France et au Québec. Donc, moi, j'ai vécu la majeure partie de ma vie en France et je suis au Québec où je fais mon doctorat depuis quelques années. Et en fait, je reviens sur à la fois les origines coloniales, notamment du côté français, de l'islamophobie, mais aussi sur... la manière dont les politiques néolibérales, les politiques capitalistes extrêmement violentes à l'égard des classes populaires ont amené, ont rendu en fait quelque part nécessaire l'islamophobie afin de justifier un certain nombre de politiques d'austérité. Donc concrètement, c'est typiquement les discours politiques qui vont pointer du doigt les immigrants, les étrangers, les musulmans, les autres de manière générale, afin de détourner le sujet, en fait, le sujet principal et les sujets principaux qui occupent les esprits, en fait, de la plupart des citoyens et des citoyennes, que ce soit au Québec ou en France. Donc, il y a vraiment à la fois donc, tout un historique dans lequel l'islamophobie s'inscrit, donc une histoire de racisme, mais aussi une histoire d'immigration. Et en même temps, il y a le fait que l'islamophobie est mobilisée comme panique, en fait, afin de détourner l'ensemble de la population des véritables sujets qui devraient nous préoccuper.
Vous proposez là, justement dans votre livre une lecture matérialiste des violences systémiques visant les femmes le musulmanes. Mais comment vous expliquez cette approche-là là, pour le public et en quoi elle permet là, de mieux comprendre les enjeux entourant le hijab?
Oui, en fait, si je pense que c'est important d'avoir une lecture matérialiste, comme tu le disais bien, c'est parce que, en fait, quand on se penche sur la question, notamment des interdictions, et là, on est en plein dedans au Québec, des interdictions du port du hijab dans certains espaces, donc que ce soit des espaces d'éducation ou des espaces pour que ça vise, en fait, à la fois des étudiantes, comme c'est beaucoup le cas en France, ou des travailleuses dans certains espaces. Ce que démontrent les recherches en fait à ce sujet-là, c'est que à terme, ça crée des conditions matérielles spécifiques qui vont être vécues par donc évidemment des conditions qui sont celles de la précarité, de la difficulté à trouver un travail. Donc là, je pense par exemple à tous les témoignages qu'on a de femmes au Québec qui disent qu'en fait elles ont fait des études pour être enseignante, puis là, elles se rendent compte qu'elles ne vont peut-être pas pouvoir être enseignante avec les nouvelles législations en vigueur au Québec. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a, quand on prend un peu plus de recul, ce dont on se rend compte, avec, surtout en France, en fait, où on a beaucoup plus de recul qu'au Québec, parce que ce genre de loi existe en France depuis plus longtemps, ce dont on se rend compte, c'est que ça crée donc à la fois une précarisation des femmes qui portent le hijab, et en même temps, ça les amène en fait à travailler dans certains secteurs spécifiques du travail, dans certaines industries spécifiques. Donc que ce soit en fait et souvent ça va être des industries invisibles, typiquement du ménage à 6h du matin. En fait des métiers qui sont ultra féminisés mais aussi racialisés dans le sens où on y retrouve une surreprésentation de femmes et notamment des femmes qui sont issues d'immigration et qui sont racisées. Et donc derrière en fait les politiques anti-hijab, comme moi je les appelle, il y a toute une organisation du travail, de la circulation des corps dans l'espace public, donc quels corps sont légitimes de circuler, comment et où, quels corps sont légitimes de rendre des services publics, donc quels corps sont considérés comme étant neutres quelque part, et lesquels on ne peut pas considérer comme étant neutres. Donc c'est toute une politique de la circulation des corps, et évidemment de la circulation, donc par définition, comme on est dans un système capitaliste, de la circulation aussi du travail, voilà. C'est un peu ça. Et je trouve que c'est important de remettre au cœur du sujet la dimension matérielle parce que Souvent, quand on parle de hijab, on parle souvent de la dimension choisie, par exemple, du voile, ce qui est tout à fait correct, là. On en parle depuis les perspectives un peu philosophiques, on parle de religion, de la place de la religion dans la société, etc., etc. Mais ce dont il s'agit, c'est aussi concrètement la question du travail, de qui travaille où et de qui peut travailler où, de qui peut accéder à quels espaces. Et je pense que c'est important de le recentrer comme ça.
Votre ouvrage là, semble mêler en même temps une démarche académique et un récit le plus personnel. Comment vous avez construit cet équilibre entre recherche et expérience pour rendre votre réflexion autant rigoureuse qu'accessible?
Oui, alors en fait, comme vous l'avez dit, là, moi, je suis doctorante en études littéraires. Donc, mes premiers matériaux, c'est vraiment la question de l'écriture et de la littérature de manière générale. Mais je travaille notamment sur l'écriture et sur les formes d'écriture. Donc moi, évidemment, ça m'intéresse de mélanger des formes, d'écrire à la fois de manière intime, mais en même temps d'aller chercher des approches plus sociologiques, plus critiques, etc. C'est une question d'équilibre, en fait, comme tu le dis. Et puis, c'est pas quelque chose que j'ai inventé non plus. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis des décennies, dans beaucoup de traditions. Je pense par exemple au texte de Gloria Anzaldúa, hein, c'est elle la théoricienne qui a forgé ce qu'elle appelle l'auto-histoire, donc c'est une manière de faire de l'histoire, de faire de la sociologie, de faire de la critique politique aussi, en partant de son récit personnel. Mais c'est évidemment pas, c'est pas raconter son récit pour raconter son récit, c'est pas juste entre guillemets de l'autobiographie, c'est vraiment raconter un récit qui s'inscrit dans justement un récit plus collectif. Une espèce de nous, en fait, qui se construit au fur et à mesure, mais parce que, justement, ce qu'on vit n'est pas isolé. Là, comme on ne voit pas, je le précise, je porte le hijab moi-même, en fait, donc c'est pour ça que je parle de ma propre expérience depuis très longtemps, depuis bientôt 14 ans maintenant. Et donc, c'est vraiment en partant de ma propre expérience de navigation à la France, en France et au Québec, que derrière, je cumule aussi des recherches, etc., pour réussir à créer un propos sur la question, mais je trouve que c'est important de partir de son expérience, parce que l'expérience est une forme de savoir, et que quand on éprouve quelque chose, quand on fait l'expérience de quelque chose, on est en capacité d'en tirer les conclusions, de l'analyser, et je pense que c'est important que chacun et chacune le fasse.
Lisa, merci beaucoup d'être venue nous parler de cet enjeu qui est très important là, en ce moment dans la société. Je te souhaite un magnifique week-end. J'espère qu'on aura plus ample temps de s'en parler une prochaine fois.
Merci beaucoup, c'est un plaisir.